Gulliver, l'hebdomadaire des livres, des images et des idées. À la rencontre d'un écrivain, d'un photographe ou d'un plasticien pour mieux décrypter le monde.
Mon dessin ne représentait pas un chapeau, il représentait un serpent boa qui digérait un éléphant.
Une production Divergence FM proposée par Alain Vaquier et réalisée par Bruno Bertrand.
Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors aujourd'hui, il sera question d'idées. D'idées car la période nous y oblige d'une certaine façon et un certain nombre de personnes ont considéré que l'époque politique était suffisamment trouble pour essayer d'imaginer des solutions. Alors ça n'est pas venu d'aujourd'hui, c'est une longue réflexion qui a mûri et qui aujourd'hui arrive à un certain terme. Ça n'est pas le bout du chemin, mais c'est un certain terme. Et c'est à cette occasion que je reçois Guy Ciblac. Bonjour.
Bonjour, monsieur Vaquier.
Je disais que la situation était suffisamment confuse, suffisamment problématique, au point que vous avez, avec quelques amis, et puis au-delà, quelques spécialistes et quelques experts, imaginé qu'il faille changer de République. Alors ça... Ça n'est pas original en soi, puisqu'on a quelques candidats à la présidentielle qui ont dit que ça serait peut-être une bonne idée. Sauf que, ils ne disent pas comment y parvenir et que vous dites on ne peut pas laisser les hommes politiques s'occuper seuls de changer de République. Il faut que les citoyens soient à un moment ou à un autre concernés.
Oui. On décrit abondamment dans la presse et dans les médias la situation actuelle qui est assez délétère, où surgissent quand même des aspects qui ont été mis en évidence depuis fort longtemps, mais qui ne semblaient pas être suffisamment bien exposés pour accrocher un grand public. Il s'agit de la corruption généralisée. Alors, tous les élus ne sont pas évidemment corrompus,
bien sûr.
Mais on va dire qu'au niveau le plus élevé de l'échelle, on s'aperçoit que ce sont des gens qui sont sans arrêt en conflit d'intérêts, c'est-à-dire au fond qu'ils font des lois qui les protègent eux-mêmes de leurs faux pas. Donc à partir de là se pose le problème de savoir si on peut confier à ces gens la possibilité et la responsabilité de refonder une organisation politique en estimant que probablement ils apporteraient quelques petites retouches à la marge, mais fondamentalement garderaient un système qui les avantage.
Alors, c'est particulièrement évident puisque j'ai appris que l'Assemblée nationale, dans une séance peu peuplée de députés, venait de voter une sorte d'amnistie vis-à-vis de la justice. C'est-à-dire que la justice ne pourra pas poursuivre les gens en raison d'affaires qui pourraient être très assimilables à celles qui touchent François Fillon à l'heure actuelle.
Oui, alors, bon, moi, je ne connais pas le texte précisément,
mais ce que je
crois avoir compris... C'est que lorsqu'une affaire de ce style est mise au jour, le travail d'investigation est long. D'abord, la découverte se fait quelquefois tardivement. L'investigation est longue, il faut chercher des preuves, asseoir le réquisitoire, etc. Et qu'au fond, si on diminue le temps pendant lequel il est possible d'ouvrir ce genre de dossier... On peut être tranquille. Alors, je crois qu'ils ont ramené à 12 ans, j'ai bien compris.
Ça.
Bon, de la même manière que on peut aussi questionner les éventuelles poursuites pour diffamation à l'égard de la presse, puisque maintenant on juge que sur Internet, il n'y a pas de délai de prescription et on peut 5-10 ans après se retourner contre un journaliste. Sur les textes concernant les lanceurs d'alerte qui sont aussi... Voilà, c'est-à-dire qu'on a l'impression vraiment qu'il y a une oligarchie et qui organise un système législatif les protégeant de toutes leurs actions.
Et de toute investigation.
Et aussi de toute investigation.
Ils se reproduisent
absolument
par eux-mêmes.
Voilà.
Et c'est donc cette logique-là qu'il faut
briser. Il faut rompre. On peut imaginer aussi que ces gens qui sont pour beaucoup dans la politique depuis très très longtemps, eh bien, s'installent dans un système qui fait qu'ils se coupent progressivement de la réalité de ce qui se passe dans la société. Pour le CETA, par exemple, qui vient d'être voté...
L'accord donc franco-canadien, européano-canadien.
Oui, mais qui est aussi sans doute la possibilité pour des entreprises américaines de passer par le Canada pour venir faire leurs affaires en Europe. Les gens ne sont peut-être pas tout à fait au courant, enfin il y en a qui le sont, mais qu'une entreprise privée peut attaquer un État parce que sa législation contrevient à son commerce. Et donc ce sont les citoyens de ce pays qui seront obligés de payer les frais engendrés, puisque ce sera un système judiciaire particulier qui gérera cette affaire-là.
Alors, ce qui est terrible, c'est que cette perte de souveraineté qui nous guette peut faire le lit de tous les extrémismes. Et donc tenter des gens à des aventures qui ne seraient pas très raisonnables.
Absolument. Et si on associe cet état de choses avec l'état d'urgence qui, quand même, devient un état permanent... les juristes, Madame Lazerge a développé ça très bien il n'y a pas très longtemps ici à Montpellier.
Mmh. Elle nous l'a dit même à cette antenne.
Voilà, c'est la porte ouverte à un pouvoir absolu. On peut imaginer qu'aux prochaines élections, quelqu'un soit élu, utilise dans la légalité la plus parfaite les textes qui sont là pour faire un nettoyage absolument... important et aboutir à une prise de pouvoir totalitaire. Nous y sommes.
Alors, face à ça, vous avez décidé, donc, je disais, avec un certain nombre de personnes, voilà. notamment l'association Anticorps, mais pas que, un certain nombre d'experts, etc. Vous avez décidé de... Ça a commencé l'année dernière, d'ailleurs, au mois de juillet. De vous saisir de cette question et de proposer donc la mise en place d'une constituante.
Alors bon, il faut expliquer en deux mots et les spécialistes expliqueront ça samedi prochain de façon plus détaillée. Une constituante, c'est une assemblée qui travaille pendant plusieurs mois. C'est pas un week-end. Hein. Il s'agit pas de voter en un week-end une modification, mais qui travaille à reconstruire une organisation à la fois politique, mais aussi administrative, parce que les deux se tiennent.
Bien sûr.
Voilà, avec des débats. L'idée étant qu'on ne peut pas laisser ce travail-là à des gens qui sont en place. Alors, il ne s'agit pas d'exclure systématiquement tout le monde, mais de trouver un équilibre dans la...
La représentation,
mais surtout d'y associer des citoyens et de les associer tout au long du travail constituant.
D'ailleurs, le paradoxe étant que la Constitution qui nous régit aujourd'hui ne prévoit pas une éventuelle modification massive.
Massive, non, c'est assez compliqué. L'expérience que les gens ont des petites modifications constitutionnelles, c'est le Congrès. On réunit les deux chambres. Mais pour une refonte, ça, c'est une autre affaire. C'est très compliqué. Alors, l'initiative qui est lancée, il y a d'abord les communes citoyennes. Il y a un certain nombre de maires de communes qui se sont regroupées dans un collectif qui s'appelle les communes citoyennes. Et une douzaine d'entre eux vont organiser, pendant la période électorale qui s'annonce, dans les bureaux de vote, en parallèle, un vote pour une constituante. C'est-à-dire, on peut se déterminer, les gens vont voter, ils votent blanc, ils ne votent pas, ils viennent simplement voter là-dessus, ils choisissent n'importe quel candidat, mais ils peuvent se déterminer pour une constituante. Et nous allons, nous, essayer de mettre en place un vote parallèle sur Internet de façon à ce que cette démarche puisse toucher un plus grand monde et avoir une idée et sensibiliser surtout les gens à cette idée qu'il y a la nécessité maintenant de refaire les choses de façon un peu sérieuse.
Alors, dans cette perspective, vous organisez donc samedi prochain, le 25, une rencontre entre, au fond, n'importe quel citoyen qui a envie d'y participer.
Oui.
Ça a lieu à la Gazette Café, donc très ouvert. Et donc, outre votre participation, la participation de quelques spécialistes, on va dire, ou experts de la question.
Alors, on a tout d'abord un maire local, M. Bascou, maire de Téran, qu'on avait déjà rencontré à une autre reprise et qui a tout à fait accepté de venir participer à ce débat. Il y aura André Belon, qui est le président de l'Association pour une constituante, Anne-Cécile Robert, qui est journaliste et qui est vice-présidente de la même association, Dominique Rousseau, qui est professeur de droit constitutionnel
À
la Sorbonne, et Séverine Tessier, la fondatrice d'Anticor. Mais les représentants locaux des collectifs Roosevelt sont très présents, puisqu'on organise ça avec leur active présence. Il y aura sans doute d'autres représentants de collectifs divers. Alors, ensuite, le débat, évidemment, c'est le Gazette Café. S'il y a beaucoup de monde, tout le monde ne pourra pas s'exprimer.
Absolument.
Alors, bon, les gens qui viendront verront, on a inventé un petit système permettant de tester un peu ce que peut être le tirage au sort, puisqu'il est souvent question de tirage au sort.
C'est vrai.
Voilà, mais c'est un tirage au sort à minima pour essayer d'introduire un peu le vécu du tirage au sort. On avait fait ça au moment du 14 juillet, sous un autre mode. Les gens avaient été surpris, mais assez intéressés par ce système. Voilà.
Et oui, donc, puisqu'on parle même du tirage au sort en termes de représentation.
C'est voilà. Qui, alors, bon,
il en sera question, justement, je suppose.
Il en sera question. Est-ce que c'est un tirage au sort radical ? Est-ce que c'est un tirage au sort sur une liste de gens qui se proposent comme volontaires ? Est-ce que c'est un tirage au sort après ou avant une élection ? Enfin, voilà, toutes ces choses-là sont à déterminer. Mais au fond, c'est le lancement un peu public de toute cette action.
Au fond, c'est une action révolutionnaire quand même, même si la révolution, ça fait souvent penser à la violence, mais pas que. La constituante, pendant la révolution, n'a pas fait l'objet de violences particulières. Elle s'est réunie et, et elle a élaboré ce qui est les textes fondateurs qui nous ont amenés à là où on en est aujourd'hui. Alors bon...
Alors, concernant la révolution de 89 et puis ensuite les différentes constitutions qui ont suivi, Sophie Vanish, qui est aussi à l'origine du Conseil d'urgence citoyenne, répondrait avec beaucoup plus de précision là-dessus. Les avis sont à la fois partagés, parce que le terme de révolution... C'est compliqué, voilà. Ça véhicule effectivement des notions un peu de « je coupe la tête », mais aussi quand même l'idée qu'une révolution, il faut s'en méfier, parce que le cercle étant l'exemple parfait d'une révolution, on risque de faire un grand détour pour revenir à peu près au point de départ.
Point de départ oui.
Donc je ne sais pas comment il faut appeler ça, c'est une évolution, on n'a pas encore trouvé de terme très précis pour définir ça. Mais effectivement, c'est un modèle qui cherche... à associer le plus de citoyens dans à la fois la gestion des affaires publiques et aussi dans l'élaboration des textes de loi, à évidemment toucher au système français, par répercussion, va toucher aussi le système européen.
Bien sûr.
Va dissocier. Donc c'est un travail qui est compliqué, lourd, astreignant. Et qui ne peut pas se passer, encore une fois, en 24 heures. Mais il faut mettre ça en place et essayer de l'organiser.
Alors, c'est vrai qu'avec le taux d'abstention que l'on voit, qui est catastrophique quand même, parce qu'au fil des échéances, il devient de plus en plus important, au fil du désintérêt des personnes, des citoyens et des citoyennes pour la politique, on voit bien qu'il y a là une nécessité presque. À faire quelque chose, quoi. Et donc, C'est ce que vous proposez au fond.
Oui, c'est-à-dire en tout ne se frappant en même temps. Mais il est bien évident que parallèlement à ce travail constitutionnel, il y a tout un travail éducatif qui doit être mis en place pour réinscrire les gens dans leur intérêt pour la chose publique. Il y a une pathologie collective et sociale. Hein. Le désintérêt, c'est dramatique. C'est dramatique. Doublement parce que les gens ont l'air d'abandonner leur propre existence sans vraiment se pencher sur l'intérêt qu'il y a à y regarder de près. Ils perdent le sentiment qu'ils ont une réelle force dans l'organisation des choses. Et surtout, un taux d'abstention important rend totalement illégitime l'élu dans le système
actuel. Tout à fait. On peut d'ailleurs dire que la reconnaissance du vote blanc amènerait, si c'était fait, à des constats catastrophiques.
Il suffit d'aller chercher sur le site du ministère de l'Intérieur les résultats et de calculer en pourcentage réel par rapport aux inscrits ce que donne. Enfin, il y a un exemple typique lorsque Estrosi a remis en jeu son siège de député parce qu'il ne pouvait pas cumuler. Bon, il s'est mis suppléant de celui qui a été élu.
Oui. Enfin, bon,
crois qu'il y a eu 80% d'abstention. Donc le gars qui a été élu, c'est 51 ou 2% de 20%, ça fait un peu plus de 10%.
Oui.
Donc voilà, à partir de ce moment-là, on n'est plus légitime.
Enfin, c'est ça, oui. Illégitimité totale.
Voilà. Et donc c'est un problème très important. Mais peut-être que si on associe les gens, leur intérêt va renaître, parce qu'ils ne sont pas complètement débranchés, ils sont dans une position de critique de la situation actuelle, de jugement un peu totalisant sur toute la classe politique est pourrie, et de toute façon on n'y peut rien, et c'est comme ça, tout en sentant quand même qu'il faudrait faire quelque chose. Mmh. Mais évidemment, réinvestir ces questions, c'est amputer un peu le temps de plaisir ou de jouissance personnelle qu'on s'accorde. Bon, donc il va falloir quand même que les gens se réveillent un petit peu.
Très bien. Alors, vous avez sorti un tract d'ailleurs qui montre bien votre détermination, qui était peut-être moins virulente il y a presque un an, mais qui montre que les choses se tendent. En 2017, je refuse la duperie d'une élection faussement démocratique. Je vote pour une constituante.
Oui.
Donc, voilà.
Alors, ce qui signifie quand même que ce mouvement n'est accroché à aucun parti, aucun candidat particulier. Bravo ceux qui pensent qu'il faut refonder notre constitution, mais dans le système actuel, difficile. Donc il faut absolument qu'il y ait une force citoyenne qui fasse entendre ces exigences importantes. Mais vous savez, il y a énormément de collectifs qui... il y a la belle démocratie, il y a les jours heureux, il y a une foule de collectifs qui doivent abandonner chacun leur petit narcissisme en pensant qu'eux ont vraiment déjà trouvé la solution pour que tout aille bien et acceptent de se mettre ensemble et de discuter très honnêtement. Il y a des options multiples, il faut les discuter, voir les avantages et les inconvénients de chacune.
Eh bien, de discussion, il sera question, donc ce samedi prochain, le 25 février, à partir de 14h.
De 14 à 18h et des poussières.
Voilà, jusqu'à plus soif.
Voilà,
c'est le cas de dire, puisqu'on sera au Gazette Café.
Si les gens veulent continuer, ils pourront après au Gazette Café.
Voilà, c'est donc le début d'un mouvement qui met en cause notre existence constituante actuelle au profit de quelque chose de neuf. Vous allez renverser la table, au fond.
Et oui, si nous
il n'y a pas d'autre solution.
Si nous avons suffisamment de force, en sachant quand même que nous aurons en face des gens qui ne vont pas se laisser plier facilement. C'est-à-dire que derrière les politiques, il y a autre chose. Et on a quand même l'impression, les uns et les autres, même si on n'est pas très féru de politique, que les politiques sont dans la main d'une autre puissance et celle-ci ne se laissera pas faire facilement. Donc, il va falloir dépenser beaucoup d'énergie.
Eh bien, souhaitons donc le maximum d'énergie à ce mouvement qui est destiné donc à rénover, à rajeunir un peu cette vie politique qui a tendance à nous laisser un peu sur le chemin, sur le bord du chemin. Merci beaucoup, Guy Seblac. Merci. Alors, une rapide revue de presse aujourd'hui avec deux événements. D'une part, la publication d'un nouveau journal, on va dire plutôt un nouveau magazine. Il s'agit de Le Doc, qui se présente sous la forme d'un journal web qui donc est consultable en permanence, si on peut dire, au jour le jour. Et puis d'un trimestriel qui va être groupé avec ce journal web, qui donc vient de sortir sous le même nom, Le Doc, avec en sous-titre politique, société, économie, culture, côté vin. Voilà, côté vin étant la cerise sur le gâteau qui va nous permettre de découvrir, je suppose, un certain nombre de terroirs que nous pourrions encore ignorer. Le Doc, c'est un autre regard sur l'actualité. Et j'emprunte au rédacteur en chef de cette publication et à son éditorial la définition un peu de ce nouveau journal. Dans son édito qui s'intitule « Le vent se lève », voilà comment Benjamin Théoul explique la sortie de ce journal. Comment de nos jours les portes peuvent se refermer devant un journaliste qui travaille sur un sujet de société? Que faire face au sectarisme et au repli sur soi? Pourquoi notre territoire, ici comme ailleurs, les questions sur le danger du communautarisme demeurent encore boudées par la bienséance ou exacerbées sans nuance par la droite radicale? La presse, même locale, ne doit pas rester silencieuse. Le Doc veut prendre le temps de comprendre pour mieux vous éclairer. Telle est l'ambition de ce nouveau média indépendant. Au cours de le sommaire de cette nouvelle publication, est composé d'une carte blanche qui se reproduit donc, je suppose, à chaque fois. Un entretien, ici c'est un entretien avec une chef d'entreprise. Alors là, ça c'est suffisamment rare pour qu'on le remarque. Habituellement, on nous bassine avec des chefs d'entreprise qui sont des messieurs. Et bien là, pour une fois, c'est une dame, elle s'appelle Marlène Taurine. Elle officie à Saint-Mathieu-de-Tréviers et c'est quelqu'un d'extrêmement dynamique et qu'il est intéressant d'écouter dans cette interview. Il y a ensuite un grand reportage, là il s'agit de la paillade, le titre est assez significatif, quand la paillade se voile la face. Une grande enquête suit sur la situation de la faculté de médecine, les conditions de travail, les conditions d'enseignement. Un portrait du préfet de l'Hérault, et pas du préfet de région, puisque le préfet de l'Hérault depuis la nouvelle région n'est plus préfet de région. Ensuite une tribune juridique qui... viendra à chaque fois nous apporter des précisions sur un certain nombre de points juridiques liés au travail, le plus souvent. Un portfolio avec de très beaux clichés que l'on doit à de jeunes photographes bien très talentueux. Et puis le magazine s'achève sur le coin du vigneron avec un article sur les cépages résistants. Une indication intéressante sur le vin que nous buvons à travers les plantations qui sont faites. Et puis après quelques dates, à ne pas manquer, une sorte de petit agenda, mais qui encore est assez incomplet. Voilà, donc c'est le premier numéro de ce doc. Alors je vous signalerai évidemment, pour vous auditeurs de Divergence, que vous aurez l'occasion de fréquenter ce magazine, soit à travers, puisqu'on pourra trouver le trimestriel papier, vous pourrez venir le chercher au 24 Boulevard Pasteur, car il y a un partenariat qui lie le Doc et Divergence. Et puis vous pourrez aussi consulter les articles sur le journal web, dans la mesure où un certain nombre de prolongements seront faits à l'antenne ou sur le site de la radio. Voilà, c'est donc un nouveau média qui sort avec... une sorte d'accord entre une radio et un journal imprimé. Voilà, ensuite, je voudrais vous signaler un événement alors, tout aussi important. C'est le 10e anniversaire du nouveau musée Fabre. Pour les plus anciens, je ne sais pas si vous vous souvenez que le musée Fabre était un petit musée de province et que grâce à la décision qu'avait pris Georges Frêche et Michel Hilaire, le conservateur du musée, eh bien, il y a 10 ans, des grands travaux ont été entamés. La cour Jacques Coeur a été supprimée. Aujourd'hui, est bâti sur cette ancienne cour, eh bien la salle d'exposition temporaire, où l'on peut voir l'exposition de François Rouen. Et donc, c'était en 2017 aujourd'hui, donc 10 ans. Et au cours de ce week-end, du week-end prochain, ce sera un week-end anniversaire, 24, 25 et 26 février, avec de la danse, des projections de films, des visites. Alors, l'entrée en est totalement gratuite. Je voudrais vous signaler quelques moments clés. Alors, le musée va mettre à contribution certains artistes contemporains que compte la ville, comme Vincent Biulès, comme Daniel Dezeuze, comme François Rouen également, qui sera là puisqu'il est sa rétrospective est en cours actuellement au musée Fabre. Donc, il y aura des visites guidées avec les grands peintres du musée, c'est-à-dire Soulages, c'est-à-dire Courbet, c'est-à-dire Basile, avec un certain nombre de guides parfaitement compétents. Il y aura également des projections de films et il y aura également des concerts avec de la musique classique, mais pas que, de la fanfare, du jazz. Voilà, il y a également des moments où on visitera les coulisses d'une exposition, donc avec une des responsables du service exposition. Voilà, on aura donc une vision à la fois à deux faces, le musée côté public et puis le musée côté coulisses, voilà, qui va être bien intéressant. Et c'est une manière donc de déambuler, puisqu'il y aura, sous ce nom de déambulation, il y aura pas mal de visites de certaines salles, de certains peintres, de certains courants artistiques également. Voilà, c'est un programme très, très, très fouillé, très chargé, qui dure 3 jours. Ça commence à 14h en début d'après-midi et ça s'achève à point d'heure. Je suis en train de chercher la dernière heure. Et donc, toutes les 20h50 le samedi, il y aura des visites insolites à la lampe torche. On s'attend à quelque chose d'assez extraordinaire. On va plonger le musée dans le noir et puis on va aller découvrir comme ça les œuvres à la lampe torche. Et là, évidemment, ce sera le soir, donc fin des opérations vers 21h30. Donc toutes les demi-heures, toutes les heures, il y a des événements dans ce beau musée qui donc a 10 ans et qui consiste à présenter l'ensemble de l'histoire de l'art avec, je crois, plus de 900 œuvres. C'est ce qu'annonce le catalogue du musée. C'est une occasion de le découvrir de façon assez ludique. Donc je ne saurais trop conseiller chacun d'entre vous de vous y rendre au moins un moment durant le week-end, une heure, un quart d'heure, demi-heure, pour découvrir un aspect que vous n'avez peut-être jamais vu dans ce musée qui recouvre beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses tout à fait intéressantes. Voilà, ainsi s'achève ce nouveau numéro de Gulliver. Je voudrais signaler une dernière information, c'est que ce soir, le collectif Les gens heureux projette au cinéma Utopia, donc le film d'un cinéaste sur le Conseil national de la Résistance, et en même temps invite à un débat avec notamment le philosophe Patrick Viveret sur donc les nouveaux modes d'organisation et de vivre ensemble dans notre société. Voilà, c'est Utopia et c'est dès ce soir. Merci à tous et à la semaine prochaine.
Gulliver, l'hebdomadaire des livres, des images et des idées. À la rencontre d'un écrivain, d'un photographe ou d'un plasticien pour mieux décrypter le monde.
Mon dessin ne représentait pas un chapeau, il représentait un serpent boa qui digérait un éléphant.
Une production Divergence FM proposée par Alain Vaquier et réalisée par Bruno Bertrand.